Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Les affichages sont pas corrects, les horaires, on n'a aucune info, on n'est pas renseigné, on nous laisse un peu à l'abandon, hein, clairement.
La pagaille dans les gares ce soir alors que débutent les vacances scolaires, mouvement surprise, démarré ce matin sans aucun préavis, le gouvernement dénonce une grève illégale.
Et les cheminots disent faire jouer leur droit de retrait après un accident, est-ce fondé ? Nos réponses dans une minute et les grandes voix sur ce sujet.
À la une également ce soir, le couple Balkany à nouveau condamné à de la prison ferme, cette fois pour blanchiment, mais relaxé des accusations de corruption.
Comme nous l'avons toujours dit et comme cela a été confirmé publiquement et officiellement aujourd'hui, il n'y a pas de corruption.
Isabelle et Patrick Balkany vont tous les deux faire appel. Dans l'actualité aussi, la France dénonce un geste agressif. L'Europe menace les États-Unis de représailles après de nouveaux droits de douane décidés par Donald Trump.
Et cette question, y aura-t-il assez de médecins aux urgences pédiatriques cet hiver ? Une dizaine d'hôpitaux sonnent déjà l'alerte.
Ce témoignage ce soir, scène d'angoisse en plein vol quand le passager d'un avion tente brutalement d'ouvrir l'issue de secours.
On a eu très très peur. Enfin, on a vraiment cru que c'était foutu. C'est terrifiant, on a vu la fin arriver.
Ça s'est passé à bord d'un Paris-Marrakech. L'homme a été maîtrisé. Enfin, on écoutera un extrait du nouvel album d'Alain Souchon, de retour après 11 ans. La bourse de Paris en repli de 0,65% à 5636 points.
Et la météo avec vous, Anissa, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Un week-end très gris hein, pour ce début des vacances de la Toussaint. Quelques chanceux auront droit au soleil. Je vous dis qui, juste à la fin du journal.
Europe 1.
C'est un mouvement qui a pris tous les voyageurs par surprise au réveil ce matin et à la veille des vacances scolaires, des trains à l'arrêt partout en France, à peine un quart des trains régionaux maintenus et pourtant aucun préavis n'avait été déposé. Les agents de la SNCF ont fait valoir leur droit de retrait après un accident mercredi à un passage à niveau. On va en venir dans un instant aux raisons de ce mouvement accusé d'être illégal. D'abord, voyons la situation ce soir dans les gares. Avec vous, Élise Dangean, vous êtes garde du Nord.
Oui, la même gare du Nord qui était bondée ce matin, l'est quasi tout autant ce soir. La sécurité est maximale. Agents de la sûreté, RATP, policiers et militaires sont nombreux. Les usagers, eux, ont les yeux rivés sur les écrans d'affichage. Des écrans à trous, puisque bien souvent, la destination est affichée, mais pas le quai. Angélique est commerçante à Paris, mais vit dans le Val-d'Oise. Et pour elle, ce mouvement est pire qu'une grève, car impossible à anticiper.
On arrive en gare, les affichages sont pas corrects. Les horaires, on n'a aucune info, on n'est pas renseigné, on nous laisse un peu à l'abandon, hein, clairement. D'habitude, on nous dit un petit peu les horaires approximatifs et c'est maintenu. Mais là, il y a vraiment rien, on ne sait pas.
Marie, elle, est en vacances, alors elle relativise, d'autant que pour une fois, selon elle, le motif de cette mobilisation lui semble légitime.
Ils ont une bonne raison, on n'est pas en sécurité, donc je comprends tout à fait. Enfin, plusieurs fois, on est arrêté parce qu'on a des passages à niveau qui ne sont pas sécurisés ou alors qui ont été carrément forcés par des véhicules. Donc, on est à l'arrêt. Donc, on se dit, mince, ça pourrait être beaucoup plus grave que ça. Enfin, c'est pas normal.
C'est d'ailleurs ce que m'ont confié des cheminots sur place. Cette action, c'est avant tout pour les usagers et leur sécurité.
Élise Dangean, en direct de la gare du Nord. On parlait beaucoup des TER, mais certains TGV aussi sont touchés ce soir.
Bonsoir Olivier Samin.
Bonsoir.
Le gouvernement déplore une grève surprise en dehors de tout cadre légal. La SNCF aussi. Les cheminots disent faire jouer leur droit de retrait. Est-ce que c'est fondé ?
Eh bien, je vous renvoie au Code du travail qui subordonne l'exercice du droit de retrait à l'existence d'un danger grave et imminent pour la santé ou la vie du travailleur. Dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, un salarié peut quitter son poste et il ne sera pas sanctionné. Alors, y a-t-il danger grave et imminent à conduire un train sans la présence d'un contrôleur, puisque c'est sur cet argument que s'appuient les syndicats de cheminots après l'accident du TER de mercredi où le conducteur était tout seul ? Nous avons interrogé plusieurs juristes spécialistes de la question. Leur réponse est nette, non, pas de danger grave et imminent, sachant que le mode de conduite sans contrôleur est en place depuis plusieurs années à la SNCF pour les TER et qu'il aurait fallu, pour invoquer le caractère imminent, que les cheminots exercent leur droit de retrait dès sa mise en place et pas seulement aujourd'hui. Ça, c'est donc le droit, mais la direction de la SNCF n'a pas l'intention, en tout cas dans l'immédiat, de brandir la menace de sanctions. Ce serait explosif, nous dit un spécialiste du dossier. Alors qu'une grève massive est annoncée contre la réforme des retraites le 5 décembre, d'où le choix plutôt de la concertation avec la tenue d'une réunion en ce moment au siège de l'entreprise avec les syndicats de cheminots.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Et suite à ce mouvement, la SNCF a lancé une concertation dans chaque région sur ces questions de sécurité.
Et ça risque d'être compliqué sur les routes également ce soir puisque les vacances scolaires, ça y est, débutent.
Oui, notamment au sortir des grandes villes, soirées classées Orange en Ile-de-France.
C'est l'autre grand titre ce soir, cette nouvelle condamnation pour le couple Balkany.
Et c'est à nouveau de la prison ferme. 5 ans pour Patrick Balkany, 4 pour son épouse Isabelle et 10 ans d'inéligibilité pour tous les deux. Bonsoir Salomé Legrand.
Bonsoir.
Jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris dans le second volet du procès.
Volet qui comportait à la fois de la corruption et du blanchiment de fraude fiscale. Eh bien, tout un pan a été rejeté par le tribunal. Autant Patrick Balkany que son bras droit, l'avocat de Levallois et le promoteur immobilier saoudien ont été relaxés des faits de corruption et de prise illégale d'intérêts. En revanche, les peines prononcées pour le blanchiment de fraude fiscale sont plus lourdes que celles requises par le parquet financier. Les deux époux Balkany, notamment, sont reconnus coupables d'avoir caché au fisc 13 millions d'euros en 7 ans. Jugement longuement motivé qui condamne un enrichissement personnel d'autant plus intolérable qu'il a été commis par des élus. Contre Patrick Balkany, je cite, indéniablement enraciné dans la délinquance, le tribunal prononce donc 5 ans de prison avec mandat de dépôt. Isabelle Balkany, elle, a vacillé dès le début de la lecture et a écouté assise sa condamnation à 4 ans de prison ferme, alors que le parquet n'avait requis que du sursis. Elle échappe au mandat de dépôt en raison de son état de santé tel qu'il a été soumis au tribunal, un petit tacle du président aux nombreuses interviews qu'elle a accordées. Tous deux sont également condamnés à 10 ans d'inéligibilité et leurs biens immobiliers sont saisis. Leur fils Alexandre est condamné à 6 mois de prison avec sursis.
Salomé, ils vont faire appel. Est-ce que ça veut dire que Patrick Balkany va pouvoir sortir de prison?
Alors rendez-vous devant la justice dès mardi prochain. Il demande sa mise en liberté. Reste à savoir si l'audience va porter, c'est un peu technique, sur les deux condamnations ou seulement sur la première, celle prononcée en septembre dernier. Il resterait alors détenu au titre du mandat de dépôt prononcé aujourd'hui en attendant une autre audience. Mais globalement, Patrick Balkany dispose de garanties de représentation. Il a laissé son passeport au juge. Il a donc de bonnes chances d'être libéré. Et comme l'appel suspend la peine d'inéligibilité, il pourrait alors se présenter aux élections municipales.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.
Et juste après ce journal, Pierre-Olivier Sûr, l'avocat d'Isabelle Balkany est mon invité. Ce sera aussi l'objet du débat des grandes voix dès 18h30.
Il est 18h07, la suite du journal sur Europe 1. Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
L'actualité économique ce soir avec la taxe d'habitation d'abord, qui sera bien supprimée pour 80% des ménages en 2020 et pour tout le monde en 2023. Mesure votée aujourd'hui par l'Assemblée nationale. 3,5 milliards de pouvoir d'achat, mais les maires s'estiment lésés. La ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, a été chahutée aujourd'hui devant l'Assemblée des départements de France.
Les producteurs de vin aussi sont remontés contre les taxes douanières décidées par Donald Trump.
Elles sont entrées en vigueur aujourd'hui et touche les produits exportés par toute l'Union européenne, notamment les vins, les fromages, jusqu'à 25% de droits de douane. Bruxelles menace les États-Unis de représailles. Écoutez le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui est justement en visite à Washington.
C'est un geste agressif. Donc c'est une erreur économique parce que bien entendu ça va réduire les échanges entre les États-Unis et l'Europe. Et c'est aussi une erreur politique parce que ce ne sont pas des pratiques entre alliés. Donc nous proposons, et je proposerai aujourd'hui à tous mes interlocuteurs américains, que nous rentrions dans une logique de négociation. C'est la voie de la sagesse. Mais nos amis américains doivent savoir que si jamais ils ne rentrent pas dans cette logique, nous sommes prêts à répliquer aux sanctions américaines. S'il n'y a pas de solution négociée, nous frapperons à notre tour.
Bruno Le Maire au micro de Sonia Dridi. Emmanuel Macron cherche toujours un nom pour remplacer Sylvie Goulard à la Commission européenne. Il en proposera à nouveau la semaine prochaine.
Adrien Beck, vous avez suivi le président à Bruxelles où le Conseil européen vient de se terminer. Et sur cette affaire, Emmanuel Macron dédramatise.
Oui, après l'agacement perceptible la semaine dernière, Emmanuel Macron a voulu calmer le jeu. D'abord, dans les mots, le revers Sylvie Goulard. Ce n'est pas un drame, c'est une péripétie, dit-il. Pendant ces deux jours, le chef de l'État s'est aussi activé en coulisses. Changement de méthode avec une rencontre hier autour de sa famille politique. Un petit déjeuner ce matin avec les leaders des grandes formations européennes, notamment Angela Merkel pour les conservateurs. Et là encore, le chef de l'État a déminé.
Je pense que les discussions de ces jours ont montré un apaisement, qu'il fallait que toutes les rancœurs se calment. On est à un moment où il y a cette crise politico-institutionnelle, il faut la régler. Je pense que les derniers jours ont permis de le faire. Et en tout cas, moi, je continuerai tous mes efforts en ce sens pour que les trois pays qui ont un commissaire à désigner puissent le finaliser dans les dans les prochains jours, courant de la semaine prochaine, et qu'on puisse avoir une commission, je l'espère, au 1er décembre.
Épreuve que l'épisode Goulard a laissé des traces, Emmanuel Macron s'est aussi montré proactif. Il a proposé cet après-midi la création d'une haute autorité de la vie publique européenne sur le modèle de celle qui existe en France, une autorité française qui n'avait rien trouvé à redire à l'entrée au gouvernement de Sylvie Goulard en 2017.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1 en ligne de Bruxelles. Emmanuel Macron qui par ailleurs s'est prononcé à son tour contre tout nouveau report du Brexit. Les députés britanniques doivent se prononcer demain sur le nouvel accord conclu avec les Européens. Et puis c'est une marée humaine qui est en train d'envahir les rues de Barcelone. Une journée de grève générale à l'appel des indépendantistes. Nous serons sur place dans le journal de 19h.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre journal de 18h, imaginez l'angoisse. Un passager d'un vol Paris-Marrakech qui a tenté d'ouvrir la porte de l'avion en plein vol. Des passagers l'en ont empêché. Témoignage dans une minute.
Et puis alerte aux urgences pédiatriques. Risque de crise sanitaire, il manque des internes pour cet hiver à cause d'une erreur de l'administration. On vous explique tout.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h12 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
C'est Europe 1 qui vous a révélé cette histoire à midi. Un vol Paris-Marrakech a dû faire demi-tour ce matin alors qu'un passager tentait d'ouvrir une porte de l'avion.
Ouais, ça s'est passé peu après le décollage. Un homme qui souffre visiblement de troubles du comportement a tenté d'activer une issue de secours. Ce sont les passagers et l'équipage qui l'ont maîtrisé. Écoutez ce témoignage, Pierre était à bord.
15 minutes après le décollage, on a entendu d'un coup des cris et des ceintures qui se détachaient d'un coup. On s'est retourné et en fait, un passager un déséquilibré qui a essayé d'ouvrir la porte de la sortie de secours. Du coup, tout de suite, les gens lui ont sauté dessus, ont essayé de le maîtriser, mais il était très agité, quoi. Du coup, tout le monde s'y est mis. Les stewards qui sont arrivés avec des menottes ont réussi à le menotter. C'est un mec qui était avec sa mère, qui était assis à côté de lui. C'était la mère qui est au bord de la sortie de secours et il est passé par-dessus, apparemment il a essayé d'ouvrir la porte. Voilà.
Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce que vous avez entendu?
Il n'a rien dit, personne visiblement n'a entendu crier quoi que ce soit au moment où il a essayé d'ouvrir la porte. Vu que tout le monde lui a sauté dessus, j'ai cru qu'il avait un couteau, enfin qu'il essayait d'agresser quelqu'un. Et du coup, c'était terrifiant parce que tout le monde a crié. Sur le coup, on s'est dit qu'on allait y passer et qu'il était dangereux et qu'il était peut-être armé et tout ça. On a eu très très peur. Enfin, on a vraiment cru que c'était foutu. Enfin, c'était fini, quoi. Bon, on est encore un peu sous choc. J'en tremble encore en vous en parlant parce que voilà, c'est terrifiant. On a vu notre fin arriver, quoi.
Témoignage recueilli par Guillaume Bier. L'homme qui est un franco-marocain de 34 ans a été arrêté. Une précision, la compagnie souligne que la porte en plein vol n'aurait de toute façon pas pu s'ouvrir. C'est impossible à cause de la pression. Une nouvelle annonce à Rouen. Il faudra 2 mois, estime la préfecture, pour enlever du site de Lubrizol les 160 fûts endommagés qui contiennent toujours un produit extrêmement dangereux. Toute la zone va d'abord être confinée.
En pleine crise des urgences, voici un couac qui risque encore d'accroître les difficultés. On vous donne de nouveaux chiffres ce soir, cette enquête pour le Grand Journal du soir.
Les urgences pédiatriques sont au bord d'une crise sanitaire, alerte lancée par 28 chefs de service d'Île-de-France. Une dizaine d'hôpitaux vont manquer d'internes cet hiver, pile au moment des épidémies. Et cela, Virginie Salmen, à cause d'une erreur de l'administration.
Oui, au moment d'attribuer les postes aux internes pour cette période de stage cruciale qu'est l'hiver avec les épidémies de bronchiolite et de gastro, eh bien, les responsables administratifs se sont trompés dans leurs estimations. Ils ont ouvert trop largement, trop de postes, 327 au lieu de 175 par exemple l'an dernier, ce qui fait que les internes se sont rués sur les hôpitaux parisiens, Necker, la Pitié-Salpêtrière, Robert-Debré et sur la Petite Couronne. Résultat, en grande banlieue, il y a des services pédiatriques dans lesquels il y a zéro interne, par exemple à Melun-Sénart, Poissy-Saint-Germain-en-Laye, Évry ou Rambouillet. Évidemment, il y a une cellule de crise à l'Agence régionale de santé depuis 3 jours. Ils cherchent des solutions de 6h à minuit chaque jour.
Est-ce que certains services d'urgence pédiatrique vont du coup devoir fermer purement et simplement cet hiver, Jenny? Quelles sont les solutions déjà qui apparaissent?
Alors d'abord, ils ont identifié une quarantaine d'internes au sein des services où ils sont plus nombreux que nécessaire, donc les hôpitaux du centre de Paris. Et donc, ils vont faire un appel au volontariat, nous explique Didier Jaffre de l'Agence régionale de santé.
Donc tout le travail va consister maintenant à contacter individuellement les internes qui sont sur ces établissements, puisque c'est sur la base du volontariat. L'agence va bien entendu accompagner financièrement cette incitation de manière à ce que ce soit positive. On serait sur un tiers de rémunération en plus.
Voilà, c'est-à-dire 500 euros sur un salaire de 1500, soit 2000 euros, plus une aide pour trouver un logement et déménager. Les maires de certaines villes ont déjà proposé des logements pour accueillir les internes volontaires. À votre question, est-ce que certains services d'urgence vont devoir fermer ? Pour l'instant, on ne sait pas exactement comment le service va pouvoir être assuré. L'ARS est rassurante, mais on n'a pas encore de réponse définitive.
L'enquête du Grand Journal du Soir, signée Virginie Salmen du service Société d'Europe 1.
Merci Virginie. On va terminer en musique ce soir, à découvrir ce week-end le nouvel album d'Alain Souchon. Il est savoureux.
Cela faisait 11 ans qu'il n'avait pas sorti d'album de chansons originales. Revoilà donc Souchon avec des titres remplis de nostalgie et de ses souvenirs des années 50. I'm 50s, c'est son titre. Il en a parlé à Angèle Châtelier.
I'm 50s. I'm 50s, c'est comme une photo qui décrit ce qu'on voit en 1950. C'est comme ces photos qui sont entourées de blanc, photos en noir et blanc, entourées de blanc avec le blanc et crénelé un peu tout autour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. Le monde était calme, le monde était les laboureurs labouraient à cheval et on avait besoin de vitesse, on avait envie de vitesse, de voitures, de fusées, de Tintin nous dessiner des fusées, on avait envie de ça. Nos princesses blondes décolorées, Debussy, Gabriel, Fauré. J'ai toujours pensé que les paroles étaient très importantes dans les chansons, peut-être plus importantes que la musique. Moi, je suis un écrivain. À Lille, sur la Grand Place.
Le nouveau Souchon, I'm 50s, est sorti aujourd'hui.
L'éternelle jouvence de cet artiste. Merci beaucoup. Sébastien Krebs, on en écoutera peut-être encore un peu à 18h30, rien que pour moi.
Ça marche.
Vous revenez en tout cas avec de nouvelles infos.